Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Algérie. Où va l'Algérie? La question se pose doublement et en tout cas sur deux plans, politique et économique. La toute récente mise à la retraite du puissant chef des services de renseignement militaire, le général Mohamed Médiane, marque la fin d'une époque, comme l'a unanimement souligné la presse algérienne ces jours-ci. Faut-il y voir la victoire d'un clan du régime contre un autre? La question se pose alors que le pays, gouverné par Abdelaziz Bouteflika, réélu pour un quatrième mandat au printemps 2014, est aujourd'hui frappé de plein fouet par la chute des cours des hydrocarbures, avec pour résultat des finances publiques qui fondent comme neige au soleil, menaçant une politique de redistribution, gage de paix sociale. Tout cela dans un environnement particulièrement instable entre chaos libyen et incertitude malienne, pour ne citer que quelques exemples. Nos invités par téléphone depuis Alger, Louisa Driss Saïd Amadouche, maître de conférence à la faculté des sciences politiques d'Alger 3, bonjour.
Bonjour.
Francis Perrin, directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabe, bonjour.
Bonjour.
Et Akram Belkaïd, journaliste, essayiste, collaborateur à Orient 21, bonjour.
Bonjour.
La mise à la retraite donc du puissant chef des services de renseignement militaire, Mohamed Médiane, comme le soulignait cette semaine la presse algérienne, marque la fin d'une époque. Le général dirigeait ce service depuis 25 ans. Ce départ n'est pas vraiment une surprise. On savait que le président Bouteflika avait l'intention de mettre fin à ses fonctions. Pourquoi maintenant? Et peut-on parler, comme je le disais en introduction, de victoire d'un clan, de l'entourage du président sur un autre? Comment décoder ce qui se passe, Louisa Driss Saïd Amadouche?
Déjà, je voudrais nuancer votre propos lorsque vous dites que c'est considéré en Algérie de façon unanime comme la fin d'une époque. Compte tenu des débats politiques, médiatiques, et même au niveau de l'opinion publique, on dirait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de consensus quant à l'explication, à une analyse à donner à la mise à la retraite du général Toufik. Plusieurs explications, plusieurs analyses sont présentées. Pour certains, on l'a poussé à partir. Pour d'autres, il a démissionné. Pour certains, comme vous dites, c'est la victoire d'un clan. Pour d'autres, c'est une remise en situation de la place des services de renseignement, parce que sous le général Toufik et simultanément sous la présidence du président Bouteflika, jamais les services de renseignement n'ont eu autant de pouvoir. Donc ce serait pour d'autres, en fait, un retour au statu quo ante, dans la mesure où il y a toujours eu plus ou moins équilibre, plus ou moins déséquilibre des forces entre l'institution militaire, et dans l'institution militaire, je parle de l'état-major et des services de renseignement, et la présidence d'autre part. Et donc, je crois qu'il est trop tôt pour parler d'une ère nouvelle, même si l'époque Toufik est effectivement terminée. En tout cas, parler d'une ère nouvelle aujourd'hui, c'est, je crois, assez précipité.
Voilà, donc le général Mohamed Médiane qui est plus simplement appelé Toufik. Akram Belkaïd, vous partagez ce que vient de dire Louisa Driss Saïd Amadouche?
Oui, absolument. C'est un peu la spécificité de la situation algérienne, qui est souvent difficilement décodable et où on est simplement confronté à plusieurs hypothèses et plusieurs versions. Chaque thèse avancée ayant son antithèse et l'antithèse étant toujours tenant toujours la route. Il est difficile de savoir si le général Médiane, qui a donc effectivement été à la tête des services secrets pendant plus de 25 ans, est parti de son propre gré. Est-ce que on l'a poussé à la retraite? Est-ce que c'est un départ déguisé? C'est une thèse aussi qui est avancée par plusieurs politologues algériens.
Départ déguisé, c'est-à-dire?
En clair, ce serait une manière de se retirer de la scène pour faire croire à un retrait, alors qu'il continuerait, je mets ça au conditionnel, à tirer les ficelles du jeu politique. Ça s'est déjà vu. On a déjà vu des responsables politiques algériens disparaître de la scène et puis réapparaître comme par enchantement quelques années plus tard. Son successeur, le général Tartag, a été mis à la retraite il y a quelques années. Et c'est aujourd'hui lui qui lui succède. Prenons le cas aussi, si on veut extrapoler, d'Abdelaziz Bouteflika, qu'on croyait fini à la fin des années 80, et qui est revenu de la manière que l'on sait à la fin des années 90.
Alors, c'est un peu, si je vous comprends bien, un jeu de marionnettes, finalement.
Oui,
on apparaît, on disparaît.
Et il est très difficile, il faut être honnête et humble, même si on essaie de s'informer là-dessus, il est très difficile de décoder ce jeu de marionnettes, ce jeu de pouvoir. pouvoir entre les différents clans. Il y a beaucoup d'informations, mais il y a beaucoup de désinformations. On ne sait pas très bien ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire qu'est le pouvoir algérien. Bien entendu, en apparence, c'est un départ qui peut paraître comme étant favorable au clan présidentiel et notamment dans l'optique de la succession d'Abdelaziz Bouteflika, favorable à son frère Saïd, dont on dit qu'il a, même s'il le dément de manière plus ou moins catégorique, dont on dit qu'il a des, lui aussi des ambitions de présidentielles pour l'avenir.
Alors Saïd Bouteflika qui est de fait beaucoup plus jeune que son frère, le président donc Bouteflika. Si on passe autant de temps sur cette mise à la retraite de Mohamed Médiane, c'est aussi Louisa Driss parce que c'était l'homme le plus puissant d'Algérie.
Là encore, il n'y a absolument pas de consensus là-dessus. Il y a un discours très mystificateur de la personne. C'était sans conteste un personnage puissant. De là à dire que c'était le plus puissant, je ne sais pas. Je crois, moi, pour ma part, que le système politique algérien a toujours été un système collégial dans lequel la prise de décision se faisait par consensus, mais un consensus plus ou moins fragile, plus ou moins fort, mais en tout cas par consensus entre plusieurs centres décisionnels, le général Taoufik était sans conteste l'un de ceux-là. Il n'était pas le plus puissant parce que dans la conscience politique des dirigeants algériens, il ne fallait précisément pas en arriver là, c'est-à-dire pas arriver à une situation de monopole du pouvoir politique, de la décision politique, de l'influence politique par une seule personne ou un seul clan ou un seul centre décisionnel. Je crois que c'est ce qui a permis à l'Algérie de survivre aux années 90 et... Est-ce qu'aujourd'hui la situation va changer radicalement? Je ne sais pas, c'est difficile à dire.
Je vous repasse la parole à Akram Belkaïd avant de passer aux aspects économiques avec Francis Perrin. Quelque chose à rajouter sur le contexte politique et ce jeu de marionnettes peut-être?
Oui, on est tout de même, il faut tout de même rappeler pour les auditeurs qui l'ignorent qu'on est dans un contexte de fin de règne. On a un président qui est très malade, qui est diminué, qu'on ne voit pratiquement plus, même si le président Hollande lors de sa dernière visite a vanté son alacrité, je le cite, ce n'est pas un contexte innocent. On est dans un moment où l'Algérie, et on va en parler notamment sur les questions économiques, l'Algérie est paraît comme étant en apesanteur dans un monde qui est totalement bouleversé, qui est confronté à de multiples menaces, à de multiples bouleversements. On a la chute des prix du pétrole, on a ces guerres un peu partout dans le monde arabe, et l'Algérie semble flotter sans qu'il ne s'y passe vraiment quelque chose. Et donc, il est difficile de ne pas penser que ce qui vient de se passer n'est que le prélude à d'autres événements à venir en termes de recomposition de ces différents centres de pouvoir que Louisa Driss Hamadouche vient de citer, qui effectivement cherche toujours un consensus à l'intérieur du système. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs clans rivaux, mais l'une des règles fondamentales du système algérien, c'est qu'on cherche le consensus à l'intérieur. La nouveauté étant tout de même ces dernières années que les différends et les batailles sourdes entre les différents clans ont tendance à être exposées sur la place publique. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport aux pratiques des années précédentes.
Louisa Driss, oui.
Au-delà de la chute d'un homme, je crois que les débats à venir sur la situation du système politique algérien sera sur deux points. D'abord, est-ce que cet événement favorisera ou pas la civilisation du système politique algérien? Quand je parle de civilisation, je parle d'une tendance vers la primauté du politique sur le militaire. Pour le moment, on ne peut pas encore répondre à cette question. Il faudra sans doute attendre la façon dont va évoluer la tête de l'état-major algérien et savoir si les prochains chef d'état-major en tout cas, ou le prochain ministre de la Défense, en tout cas ceux qui seront responsables de l'institution militaire algérienne, seront des personnages politisés ou pas. La deuxième question, c'est le poids des services de renseignement sans le général Médiane. Et là encore, il n'y a absolument pas de réponse consensuelle sur la question. Pour certains, c'est la fin du DRS, pour d'autres, pas du tout. Et en fait, ce qu'il faudra sans doute examiner, c'est que c'est la possibilité que les services de renseignement reviennent à leur fonction qui est du renseignement et abandonne, ou en tout cas recule sur la question de sécurité, parce que quand vous avez DRS, vous avez département du renseignement et de la sécurité, et on peut envisager que les changements récents puissent recadrer les services dirigés par le général Taufik dans une fonction de renseignement, plus renseignement et moins de sécurité.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
On a compris donc beaucoup d'incertitudes et en tout cas voilà des tendances que le temps peut-être nous permettront de mieux décoder. Je retiens ce que vous disiez, Akram Belkaïd, une sorte d'apesanteur dans un monde bouleversé, une Algérie finalement d'une certaine manière en suspension, mais pas dans tous les domaines. La chute des prix du pétrole, Francis Perrin, je me tourne vers vous. Un baril qui est passé, on le sait, de $120 à 50, voire un peu moins, mais je simplifie. C'est une catastrophe pour l'Algérie. La balance commerciale a accusé un déficit de 8 milliards de dollars au cours des 7 derniers mois. C'est un contraste avec l'année précédente, marquée par un excédent de 4 milliards de dollars. C'est une véritable saignée pour l'Algérie, alors que les hydrocarbures représentent un tiers du produit intérieur brut. Francis Perrin.
Il faut effectivement partir de quelques données de base simples. La première, nous parlons d'un pays qui est un pays en développement, avec tous les besoins que cela suppose pour sa population. Le deuxième élément, c'est un pays qui est très dépendant vis-à-vis des hydrocarbures. Hydrocarbures, donc pétrole et gaz naturel. Rappelons un chiffre pour ne pas assommer nos auditeurs, mais un chiffre spectaculaire. Au premier semestre de cette année, pétrole et gaz, c'est 96% de toutes les exportations de l'Algérie. Troisièmement, cette chute des prix du pétrole que vous avez rappelé depuis le mois de juin 2014, effectivement une chute de l'ordre de 55 à 60%, c'est absolument considérable. Et quatrièmement, le fait que les prix du gaz sont liés au prix du pétrole. Donc quand les prix du pétrole baissent, cela n'affecte pas seulement les exportations pétrolières de l'Algérie, mais aussi les exportations gazières, ce qui est important puisque l'Algérie est un pays plus gazier que pétrolier, même s'il y a effectivement les deux. Donc quand on additionne ces quatre éléments très simples, on voit à quel point la situation est grave. Vous avez cité quelques chiffres, notamment sur l'évolution de la balance commerciale du pays. J'ajouterai deux chiffres qui sont assez spectaculaires. Entre la fin juin 2014, donc le début de la chute des prix, et puis la fin juin 2015, les réserves de change de l'Algérie, en devise, on ne compte pas l'or, ont baissé de 18%. Et plus spectaculaire encore, dans le même temps, entre fin juin 2014, fin juin 2015, les ressources du, ce qu'on appelle en Algérie, le fonds de régulation des recettes, qui est un petit peu, on va dire, un fonds souverain, ont baissé de 33% en un an. Donc voilà, alors le point positif au milieu de beaucoup de difficultés, c'est que l'Algérie est un pays qui avait accumulé de très importantes réserves de change pendant les années de vache grasse pour les prix du pétrole.
Qui donne à ce pays la possibilité de vivre encore sur ses réserves pour 2 ans, Francis Perrin. Mais je parle sous votre contrôle.
On n'est pas dans le cas du Venezuela qui... dès aujourd'hui, est complètement prise à la gorge. Et quelques autres pays producteurs, qu'ils soient ou pas membres de l'OPEP. Les réserves, comme je le disais, ont commencé à baisser, moins 18% en un an. Mais à la fin du premier semestre, elles étaient encore de 159 milliards de dollars. Ça permet de voir venir. Mais la chute a commencé, elle va se poursuivre. Ces réserves sont en train de fondre. Et il ne s'agit pas d'attendre qu'elles soient à zéro. Évidemment, c'est bien avant ce chiffre-là. Ça va commencer à devenir rapidement inquiétant. Alors, l'une des grandes questions, c'est combien de temps va durer la chute des prix du pétrole ?
Évidemment, et est-ce que ça peut descendre plus bas ?
Vous avez raison. Il y a deux questions. Est-ce que les prix peuvent encore descendre plus bas ? Et pendant combien de temps vont-ils rester à un niveau très bas, soit le niveau actuel qui est bas par rapport aux dernières années, soit même un niveau encore plus bas ?
Et vous avez sorti votre boule de cristal, Francis
Alors,
Perrin ?
La réponse, c'est que personne n'a de réponse à cette question. Ce qui est évidemment un problème, on parle d'une matière première qui est cotée sur des marchés. avec des prix à la hausse, à la baisse, et personne ne maîtrise le prix du pétrole aujourd'hui. Il n'y a pas un seul acteur, même l'Arabie Saoudite, même les États-Unis, même les plus grandes compagnies pétrolières, à elles seules, ne maîtrisent pas le prix du pétrole. Et c'est la conjonction de rapports de force entre plusieurs acteurs et d'évolution de marché. Donc pour l'Algérie, c'est une évolution qui est d'ores et déjà très préoccupante et qui, si elle se prolongeait, évidemment, encore un certain temps, voire un temps certain, aurait des conséquences économiques, bien entendu, d'abord, sociales et éventuellement politiques ensuite, qui seraient très très graves. Donc, c'est pas encore tout à fait l'urgence, parce qu'on est à Alger et pas à Caracas, mais c'est effectivement une sonnette d'alarme très importante pour les responsables politiques et économiques algériens.
Alors, conséquences économiques, conséquences sociales, on va y venir. Juste, pour nos auditeurs, ça me paraît être une notion particulièrement importante. L'économie algérienne, c'est une économie qui repose exclusivement sur les importations. Il va sans dire que si les exportations de gaz et de pétrole ne rapportent pas autant, les importations, elles sont incontournables. Francis Perrin.
Vous avez raison de souligner ce point. Je pense que c'est l'un des points les plus importants dans l'équation économique actuelle et future de l'Algérie, lorsque l'on parle évidemment de la chute des prix du pétrole. En 2014, les exportations de pétrole et de gaz de l'Algérie permettaient de financer à quasiment 100% les importations totales de l'Algérie. Mais aujourd'hui, disons pour les 6 premiers mois de l'année 2015, avec la chute des prix, les exportations pétrolières et gazières ne financent plus que les 2/3 des importations algériennes. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Je l'ai rappelé tout à l'heure, pétrole et gaz, c'est 96% des exportations de l'Algérie. Donc le pétrole et le gaz financent tout. Or, nous avons un pays qui, pour des raisons qui ne sont pas énergétiques, mais qui sont économiques et évidemment politiques, ne produit pas énormément de choses, pour le dire très diplomatiquement, et donc qui importe massivement. Alors, quand les prix du pétrole sont élevés, il n'y a pas de problème pour importer. L'argent est dans les caisses, l'argent tombe, les prix du pétrole sont élevés, les prix du gaz sont élevés. Quand ces prix du pétrole non seulement baissent, mais s'effondrent, ce à quoi nous avons assisté depuis maintenant un petit peu plus d'un an, là, cette équation économique et commerciale devient plus délicate, non pas encore une fois dans le court terme, du fait de l'importance des réserves de change, mais qui sont en train de fondre, mais pour le moyen terme, et le moyen terme, ça ne veut pas dire dans 10 ans, hein, le moyen terme, ça veut dire dans les années qui viennent, là, c'est effectivement une situation extrêmement grave qui nécessite une réaction, ou plutôt un ensemble de réactions dans différents domaines. On pourra y revenir si vous le souhaitez, de la part des autorités algériennes.
Alors, quand vous dites le moyen terme, c'est moins de 10 ans, ce que j'ai compris, Francis Perrin, c'est il faut agir avant 2 ans.
Ah, absolument, tout à fait.
Il nous reste peu de temps pour terminer cette première partie d'émission, encore une minute trente. Évidemment, la question qui va se poser, c'est la notion, et pour nos éditeurs, je le précise, les transferts sociaux en Algérie sont d'un niveau incomparable dans le monde entier. La question qui se pose, c'est est-ce que ça peut durer? Est-ce que la paix sociale est menacée? Louisa Driss, vous souhaitez, développer trop longtemps, mais peut-être encore une minute en tout cas, sur ces aspects économiques.
Déjà, je voudrais souligner que tout ce dont a parlé Francis est devenu complètement pris en considération dans le discours politique algérien, ce qui est nouveau. Jusqu'à l'année dernière, le discours politique officiel était « nous avons le temps, nous sommes à l'abri, tout va bien, nous maîtrisons la situation ». Ces six derniers mois, le discours politique du gouvernement a progressivement changé et certains tabous commencent à être remis en cause, notamment celui des subventions dont vous parliez. C'est tout à fait nouveau parce qu'il s'agissait d'une question totalement sacralisée à laquelle il fallait absolument pas toucher. Les transferts sociaux, les avantages sociaux, les subventions étaient considérés comme une zone rouge. Aujourd'hui, le gouvernement, à travers des experts qui lui sont proches, commence à en parler, commence à dire que ces subventions sont suicidaires et le ministère des Finances, qui est totalement nouveau pour le coup, a démontré, chiffre à l'appui, que les subventions favorisaient en grande partie à la population aisée et non pas à la population les plus défavorisées.
Louisa Driss, je vous propose de poursuivre dans la deuxième partie de l'émission sur cette question des subventions et la prise en compte par le gouvernement de la situation économique. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Louisa Driss, Saïd Amadouche, Francis Perrin et Akram Belkaïd dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, où va l'Algérie? Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Alger, Louisa Driss Aït Amadouche, maître de conférence à la faculté des sciences politiques d'Alger 3, Francis Perrin, directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabes, et Akram Belkaïd, journaliste, essayiste, collaborateur à Orient 21. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur les questions économiques qui se posent aujourd'hui à l'Algérie. On a parlé de la chute des prix du pétrole, passé de $120 à 50 pour le baril, voire un peu moins. Et Francis Perrin nous le disait, les prix du pétrole sont liés au prix du gaz et l'Algérie est grand exportateur de gaz. Tout cela impacte évidemment l'économie du pays et en particulier, Louisa Driss Aït Amadouche, la question des subventions, les subventions qui sont les transferts sociaux d'un niveau, je le disais dans la première partie, d'un niveau incomparable dans le monde entier. En Algérie. Est-ce que ça peut durer? Vous nous disiez que le gouvernement algérien avait tendance aujourd'hui à prendre en compte cette réalité économique pour prendre des mesures qui vont être tout de même plutôt assez impopulaires, Louisa Driss.
Oui, je crois que le gouvernement prépare l'opinion publique à des changements à ce niveau-là. Akram, je crois, tout à l'heure disait effectivement que les transferts sociaux avaient un poids extrêmement important au niveau du PIB et du budget gouvernemental. Et le ministère des Finances a fait une étude très médiatisée dans laquelle il disait que 72% de subventions favorisaient essentiellement la population aisée et non pas la population défavorisée. À cela, je crois qu'on prépare aussi l'opinion publique à des changements à ce niveau-là parce qu'on parle de plus en plus de la nécessité non seulement de diversifier l'économie, mais également on revient sur la rhétorique selon laquelle le pétrole est une malédiction et non pas une bénédiction et que finalement, à quelque chose malheur et bon, la chute du pétrole poussera à des réformes, non pas des réformettes économiques, mais à des réformes économiques structurelles très importantes. Peut-être que cet élément additionné aux questions de succession politique feront finalement que le moteur politico-économique se mettra en route de façon beaucoup plus saine que ne l'a été toutes ces dernières années.
Akram Belkaïd.
Il y a plusieurs choses. Pour les plus âgés, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une espèce de sentiment de déjà vécu. En 1988, l'Algérie a découvert la crise économique, a tenu un langage d'austérité. On sait que ça s'est traduit notamment par des émeutes, par une crise politique interne.
Et la guerre civile des années 90.
Puis la guerre civile des années 90. Donc il faut espérer effectivement que cette période d'incertitude qui s'ouvre arrive à convaincre les dirigeants algériens, le système politique algérien, qu'il est temps de réformer le système en profondeur. Malheureusement, et c'est un avis personnel, je pense que le système politique algérien est aussi convaincu que finalement le pétrole n'est qu'une affaire de cycle. Je crois que Francis Perrin ne me démentira pas là-dessus, et qu'il s'agit de faire le dos rond le temps que les prix du pétrole remontent. Il faut se souvenir que quand Bouteflika est élu en 1999, on sort d'une période où les prix du baril étaient bas, et qu'il a eu une période dorée, je veux dire une période exceptionnelle de hausse continue des prix de l'or noir. Et in fine, quand on regarde un peu les chiffres, le chiffre que vous citiez, Monsieur Perrin, tout à l'heure, 96% des exportations algériennes viennent des hydrocarbures. C'est pour moi le chiffre, l'indicateur majeur qui indique l'échec. Elle est un échec majeur dans la politique économique de ces 15 dernières années.
C'est-à-dire une économie qui n'est absolument pas fondée sur la production.
Voilà, sur la diversification. Et je voudrais juste dire un mot sur la question des subventions, parce que c'est souvent la même chose qu'on entend à chaque fois qu'on est dans une conjoncture baissière. C'est-à-dire que c'est la solution de facilité, parce que on dit, voilà, il faut couper dans les subventions, c'est de l'argent gaspillé, etc. et tout, avec le risque social que ça engendre. On parle moins des importations. C'est-à-dire que l'Algérie est tout de même un pays qui ne cesse d'importer, dont la facture alimentaire n'a cessé de grossir au cours des 10-15 dernières années avec des intérêts privés extrêmement puissants, très proches des cercles du pouvoir. Et la question est comment ces intérêts privés, ces gens qui se sont arrangés pour que l'Algérie ne produise pas, pour qu'ils puissent importer, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis cette bourgeoisie comprador, c'est-à-dire ces comptoirs commerciaux, comment ces gens-là vont réagir? Vont-ils accepter que demain on réinstaure un contrôle d'échange un peu plus tatillon qu'il ne l'est aujourd'hui? On voit dans les supérettes à Alger et un peu partout dans le reste du pays que l'Algérie importent de tout et de n'importe quoi. Ce sont des lobbies très puissants, ce qu'on appelle la mafia de l'import-import. Si demain, à cette mafia, on lui dit les ressources en devises étrangères diminuent, il va falloir diminuer les importations, ça peut aussi avoir son importance sur l'équilibre du pouvoir algérien.
Francis Perrin.
Je reviens sur ce qui vient d'être dit concernant la notion de cycle des prix du pétrole. Nous sommes dans une période très difficile pour tous les pays producteurs, exportateurs, notamment les pays en développement tels que l'Algérie. Mais c'est vrai que l'histoire se répète. Alors elle ne se répète jamais de la même façon. Ce n'est pas la première fois que les prix du pétrole chutent très fortement. Il y a eu au milieu des années 80, on vient de le rappeler, 1980. Il y a eu à la fin des années 1990. Il y a eu 2008. Et maintenant, il y a 2014, 2015. Jusqu'à quand, on ne le sait pas aujourd'hui. Donc ça fait au moins, dans les dernières décennies, quatre fois que les prix du pétrole, je ne dis pas baissent légèrement, mais chutent, s'effondrent. Lorsqu'on regarde le comportement de différents pays producteurs dans ce contexte, beaucoup se disent, en Algérie ou ailleurs, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose. Et puis, les prix remontent, car ils finissent toujours par remonter.
Et on s'endort.
Et on se dit, ah finalement, quand même, le pétrole, c'est quand même sympathique, ça dégage tellement d'argent, que finalement, pourquoi se donner tant de mal pour faire des réformes, alors que si, pour reprendre votre expression, on fait le dos rond pendant quelque temps. Et ce discours, évidemment, le raisonnement derrière ce discours sont extrêmement dangereux parce que on se condamne à ce moment-là à ne jamais sérieusement s'atteler à une tâche absolument essentielle, la diversification de l'économie algérienne. Alors, tout va dépendre quelle sera la durée de ces très bas prix du pétrole. Si c'est relativement court, je pense que les mauvaises habitudes reprendront très rapidement le dessus. Si par contre, cette chute des prix est plus durable que ce que certains, à tort ou à raison, peuvent penser, là, l'Algérie, comme d'autres pays aussi dépendants vis-à-vis du pétrole et du gaz, seront contraints à une révision déchirante en termes de politique économique. Ce qui serait mieux, c'est que, plutôt dans la vie d'être contraint, c'est de choisir délibérément d'aller dans la bonne direction et la voie des réformes énergétiques et économiques. Mais évidemment, réformer, c'est jamais simple. Économiquement, politiquement, socialement, on l'a rappelé. Et attendre que les prix du pétrole remontent et que l'argent retombe dans les caisses, c'est évidemment beaucoup plus facile. La question, c'est quand ?
C'est ça, révision déchirante, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, ce que j'entends, et je sais que Louise Adris, vous le disiez tout à l'heure, il y a une réaction, on voit l'Algérie envisager d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de douane, mais avec tout de même difficulté à prendre des mesures draconiennes sur la question des subventions, même si peut-être dans la réflexion politique, cela chemine tranquillement. Tout cela, ce sont des mesurettes, et par rapport à ce que disait Akram Belkaïd sur les intérêts bien compris de certains. La question qui me vient, c'est est-ce que finalement, en ce qui concerne l'avenir de l'Algérie, il y a un terrain commun entre la population et ses élites sur le plan des aspirations, une vision commune ? J'en ai pas l'impression, Louise Adrissa et Tamadouche.
C'est une bonne question, je ne sais même pas de quel côté la prendre. Sur le plan économique par exemple, on a, je crois, trop longtemps habitué les Algériens à obtenir des ressources sans l'effort nécessaire ou sans l'effort de productivité nécessaire. Les transferts sociaux, les subventions obéissent à cette question-là. Sur le plan politico-sécuritaire, nous sommes restés, les années 90 aidant, la légitimité révolutionnaire aidant, la légitimité sécuritaire aidant, nous sommes restés dans une logique aussi presque d'assistanat. À l'assistanat économique, nous faisons face aussi à une espèce d'assistanat politico-sécuritaire dans la mesure où le FLN reste rassurant par rapport à d'autres partis politiques. Les services de renseignement, l'armée restent rassurantes par rapport à ce qui pourrait se passer si ces institutions sécuritaires, gestionnaires de la violence, venaient à reculer du point de vue de l'influence. Donc pour revenir à la relation entre population et élite, je crois que l'interconnexion entre les deux reste encore très faible dans la mesure où l'élite se fait très peu entendre parce que les espaces ne sont pas extrêmement nombreux d'une part et parce qu'une partie de l'élite joue au jeu de la clientélisation et de la cooptation. Finalement, comme disent les Chinois, hein, les situations de crise sont souvent une opportunité, et celle-ci pourrait l'être parce qu'il y a conjonction entre la fin d'une génération qui doit partir de toute façon, de façon biologique ou politique, et une génération qui a été éduquée par Internet, par les télévisions satellitaires, qui sait qu'on ne peut pas indéfiniment vivre sur les ressources souterraines. Et je crois que le débat extrêmement vif qui a eu lieu lorsqu'on a parlé des gaz de schiste, et notamment le mouvement anti-gaz de schiste qui s'est produit dans le Sud, peut laisser entrevoir le fait qu'une prise de conscience collective aboutisse à une révision profonde de ce que l'Algérie de demain doit être. En tout cas, c'est une Algérie qui doit être différente de celle du passé.
Akram Belkaïd, vous partagez ?
Oui, oui, je suis d'accord là-dessus. Je voudrais ajouter un point. S'il y a un élément de consensus entre, je dirais, la majorité des Algériens et leurs dirigeants, il réside dans la position de politique étrangère, et notamment dans le refus de voir l'Algérie être mêlée de près ou de loin à toute aventure ou à toute intervention militaire, qu'il s'agisse de ses frontières, je pense notamment à la Libye, ou du théâtre moyen-oriental, comme par exemple l'actuelle intervention d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, ou demain peut-être la Syrie. Et là, pour le coup, il y a vraiment dans un pays au sentiment nationaliste assez affirmé, je serais presque tenté de dire que c'est peut-être le seul élément où les dirigeants algériens sont en phase, ou que le peuple algérien est en phase avec ses dirigeants. Et c'est d'ailleurs un élément fondamental qui n'est pas toujours pris en compte, notamment par les partenaires occidentaux de l'Algérie, qui aimeraient bien que ce pays joue un rôle, je dirais, un peu plus actif sur le plan militaire, notamment en Libye et dans le Sahel.
Alors, ce que l'on peut peut-être rajouter pour aider à la compréhension de ce que vous venez de dire, Akram Belkaïd, c'est peut-être situer l'Algérie dans le contexte historique. C'est vrai que ce souhait de non-intervention à l'extérieur est inhérent, on en revient à la question évoquée précédemment, les années 90, les années noires pour l'Algérie, les années de guerre civile. Mais est-ce que précisément la question de la prise d'otage sur le site gazier de Tillandtourine de janvier 2013 n'a pas marqué un tournant? On voit quand même l'Algérie avoir été la cible première d'ACMI et aujourd'hui directement menacée par l'installation de l'État islamique au Maghreb. Tout cela n'est pas en train de bouger?
C'est un principe, ce principe de non-ingérence dans les affaires d'autrui et donc de non-intervention qui a été simplement la seule fois où l'Algérie a envoyé des troupes à l'extérieur, c'était lors des guerres arabo-israéliennes. Il est assez ancien, hein, donc il est le résultat de la philosophie qui était celle du FLN pendant la guerre d'Algérie. Alors effectivement, les menaces aux frontières font qu'aujourd'hui on entend des voix en Algérie qui se sont exprimées notamment dans la presse pour dire qu'il serait peut-être temps que l'Algérie change sa philosophie et qu'elle soit peut-être, qu'elle assume le rôle d'une puissance régionale et qu'elle effectivement frappe de manière préemptive les menaces qui sont à ses frontières. Mais encore une fois, l'idée même que l'armée algérienne intervienne en dehors de chez elle reste une idée très impopulaire, même après ce qui s'est passé à Tillandtourine en 2013, et même avec les turbulences que l'on connaît en Libye et dans le Sahel. Alors ça peut peut-être évoluer selon la situation, mais il y a ce sentiment d'être à l'écart, d'être une espèce de forteresse assiégée, d'être un pays à part. Voilà, d'être un pays à part qui n'est peut-être pas obligé de se comporter comme le reste des autres pays, notamment arabes.
On reviendra sur les questions économiques avec vous, Francis Perrin. Je rebondis sur ce que vient de dire Akram Belkaïd, un pays à part. Louise Adriss, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est aussi un pays à part dans la demande d'islam qui s'est exprimée dans les pays de la région et dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est et où en est le curseur aujourd'hui en Algérie?
Puis-je dire un petit mot sur la politique étrangère?
Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Akram. La politique étrangère de l'Algérie est considérée comme une spécificité, l'une des spécificités algériennes, et je crois que le mot spécificité ou exception fait sens en France, parce qu'on parle beaucoup aussi d'exception française. Nous avons donc hérité de cette exception ici en Algérie, notamment dans la politique étrangère. La question de la non-ingérence dans les affaires internes du pays, elle a, je crois, deux raisons importantes. L'une est une raison, qu'on va dire, idéologique, doctrinale. L'Algérie ayant été un pays colonisé, elle ne veut absolument pas paraître d'une façon ou d'une autre comme un pays ayant des ambitions ou des velléités impérialistes de domination des peuples qui seraient en danger ou en difficulté. Une quelconque intervention étrangère, même si elle était totalement légalisée, labellisée par les Nations Unies, aura toujours, du point de vue de la conscience collective algérienne, une dimension impérialiste ou une dimension de domination, parce que l'Algérien lambda est convaincu que la politique, ce sont des intérêts, et lorsqu'un pays intervient militairement dans un autre, ce n'est jamais pour les beaux yeux de ce pays, mais c'est toujours pour une question d'intérêt. La deuxième raison qui explique cette position algérienne, c'est que les responsables politiques algériens ont toujours eu, et ça date de très très loin, ça remonte à avant l'indépendance, une relation très difficile, très controversée avec l'extérieur. Tout à l'heure, Akram disait, l'extérieur c'est souvent l'ennemi, la main étrangère, le complot, et c'est effectivement encore le cas. L'extérieur est toujours considéré comme source de menaces potentielles ou réelles. Dans la conjoncture sécuritaire actuelle, la Libye, le Mali, la Syrie, Daesh, l'instabilité de la Tunisie, c'est encore plus vrai que par le passé. Et effectivement, on craint toujours que l'extérieur, source de menaces potentielles, devienne une source de menaces réelle pour la sécurité de l'Algérie, et la sécurité revêt, il faut le savoir, une connotation extrêmement vive, pas seulement au sein de l'élite, pas seulement au sein de la classe dirigeante, mais également au niveau de la population. Voilà, pour ce qui est de la politique étrangère. Je ne crois pas que la question de l'islam revête une particularité ou une spécificité en Algérie. L'islamisme par contre, oui, dans la mesure où l'Algérie a connu une relation un peu paranoïaque avec l'islamisme, je t'aime, moi non plus, on intègre des partis islamistes dans le gouvernement, mais on continue une lutte acharnée contre le terrorisme islamiste, on tolère que des anciens terroristes aient une activité politique non autorisée, et en même temps on considère que la lutte contre le terrorisme reste un principe intangible. Il y a la question de la réconciliation nationale qui est un véritable label, de même que la lutte antiterroriste. La réconciliation nationale, le gouvernement algérien l'a vendue au Mali, il la vend à l'Égypte, il la vend à la Tunisie. Donc il y a une relation de inclusion-exclusion avec l'islamisme. C'est une particularité extrêmement présente en Algérie.
Pour en revenir à la question économique, Francis Perrin, en quelques mots, ce que l'on espère aujourd'hui, c'est le sursaut réformateur de l'Algérie sur le plan économique.
C'est essentiel à moyen terme et à long terme. À court terme, l'Algérie essaie de faire en sorte que l'OPEP réagisse et réduise sa production pour faire remonter les prix, mais le succès de ces initiatives qui sont nécessaires, mais n'est pas garanti. L'Algérie essaie également, en matière de politique énergétique, d'accroître sa production d'hydrocarbures, pétrole et gaz, de développer les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, pour laquelle le potentiel est considérable, de développer les économies d'énergie, ce qui est une absolument capitale. Mais on revient à un des sujets que nous avons abordés dans cette émission. Est-ce que l'on peut vraiment économiser l'énergie de façon très importante avec des prix de l'énergie qui sont très bas? Et puis, évidemment, encore une fois, ça c'est du court moyen terme. À moyen et long terme, il est absolument capital pour ce pays de ne pas rester un pays aussi dépendant des prix du pétrole. Les prix du pétrole, ils sont fluctuants. Il y aura toujours des hausses, des baisses. Tout pays en développement, producteur, doit faire en sorte d'utiliser en partie les revenus du pétrole et du gaz pour financer la diversification de son économie. Et c'est ce qui n'a pas été fait en Algérie depuis des dizaines d'années.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Louise Adris Haït Amadouche, maître de conférence à la Faculté des sciences politiques d'Alger 3, qui était avec nous par téléphone. Francis Perrin, directeur de la rédaction de Pétrole et Gaz Arabes, et Akram Belkaïd, journaliste, essayiste, collaborateur à Orient 21. Pour aller plus loin sur l'Algérie, je signale le tout récent numéro de Jeune Afrique qui consacre tout un dossier à l'Algérie. Également la revue Maghreb Machrek avec cette question. L'Algérie, une stabilité illusoire, point d'interrogation. Et Politique étrangère, la revue de l'IFRI. L'Algérie, nouvelle force régionale, également avec un point d'interrogation. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Julien Magoharou. Demain, Géopolitique sera consacrée à la diplomatie du Vatican. À demain.